EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Pour parler d'un sujet fort intéressant, on va parler des mentalités du royaume et comment vous pouvez grandir. Vous savez, c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu nous donne le choix. Nous pouvons changer si on veut. On peut découvrir les lois spirituelles de Dieu et les appliquer dans nos vies et voir vraiment une transformation au niveau de tout ce que nous vivons. Et j'aimerais ça, premièrement, revenir sur un texte qu'on a vu depuis le début de cette semaine dans Luc 2, 52. Il est écrit: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, si Jésus grandissait, vous pouvez grandir, je peux grandir, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous aider à comprendre c'est quoi ça, une mentalité. Premièrement, on va aller dans le dictionnaire Larousse pour voir, mais quel est le sens? Des fois, on s'imagine de comprendre, hein? Je pense savoir le sens, mais on va revenir, juste tout simplement, on va définir tout simplement c'est quoi une mentalité, et après, on va voir comment on peut changer, comment on peut grandir dans notre mentalité, et pas n'importe quelle mentalité, pas la mentalité du monde, mais la mentalité du royaume de Dieu, et c'est vraiment excitant. Donc, une mentalité, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, l'ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Bon, c'est très important de comprendre ça. L'ensemble des habitudes intellectuelles. On pense d'une certaine façon et on va agir, on va penser, on va juger aussi selon cette mentalité-là. Et vous savez, quand on est chrétien, on a peut-être des amis chrétiens aussi dans les réseaux sociaux et on voit toutes sortes de commentaires, des commentaires qui circulent à droite et à gauche. Et des fois, bien, on peut être béni, heureusement, on peut être béni en lisant des commentaires. Mais souvent, en tant que chrétien, je lis certaines choses et je suis estomaqué par les réflexions, par la petitesse de la pensée chrétienne. Souvent, on s'imagine que notre grand Dieu va faire juste des petites choses miniatures, microscopiques dans nos vies. On limite Dieu énormément et même on limite la grandeur de Dieu dans la vie de nos frères et nos sœurs. Et c'est pour ça, des fois, on voit même circuler dans les réseaux sociaux, on voit des commentaires négatifs, on voit de la critique, des murmures, des calomnies, on voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Et on se dit, ces choses-là ne devraient pas exister dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Et pourquoi les gens sont comme ils sont en ce moment? Pourquoi que les gens vont critiquer une femme de Dieu, un homme de Dieu sur Internet? J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Je me disais, mais pourquoi les gens sont comme ça? C'est parce que la mentalité est là. En fait, par exemple, j'ai vu une femme de Dieu qui avait été vraiment attaquée, et c'est très, très rare que je fais ça, mais cette fois-ci, j'ai senti que Dieu m'appelait à écrire un texte pour la défendre. Et puis, c'est ça que j'ai fait, et puis, heureusement, j'ai plusieurs chrétiens qui ont appuyé mon texte, qui ont partagé. J'ai dit gloire à Dieu pour ça, parce que mon cœur, c'était d'aider les autres chrétiens à comprendre qu'on ne devrait pas se réjouir si on pense qu'une personne a fait quelque chose de mauvais. En fait, je vous donne un peu l'illustration. Cette femme de Dieu a été accusée faussement. Elle, supposément, se repentait d'avoir enseigné la foi à l'extrême. Et puis, on a pris des textes ou des clips de ses enseignements, qui étaient des clips assez récents. Et puis, on faisait à croire aux gens qu'elle renonçait à son enseignement qu'elle avait depuis 30 ans. Mais en fait, ce qu'elle avait dit récemment, c'est des choses qu'elle disait aussi au tout début de son ministère. Donc, en fait, elle disait qu'elle était déséquilibrée au tout début de son ministère. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment spécial, j'ai vu les gens partager un texte et ce texte-là circulait partout là et les gens se réjouissaient que finalement cette femme de Dieu se repentait d'avoir enseigné la foi à l'extrême. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'absolument anormal. Les chrétiens aimaient ça. Ils se réjouissaient qu'elle se repentait. Et on aime voir la défaite des grands. On se réjouit quand les grands se repentent, quand on pense qu'ils se sont trompés. Et j'ai trouvé que c'était très charnel, c'était très dérangeant. Donc, j'ai écrit ce texte. Et puis, j'ai dit, en fait, cette femme ne se repent de rien. C'est vraiment faux. C'est un texte qui a été écrit. Et en fait, elle ne se repent pas. C'est vraiment quelque chose qui a été pris hors contexte. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que vous lisez. Donc, j'ai pris le temps d'écrire. Et puis, je vous partage tout ça pour vous dire que dans le corps de Christ, nous avons une mentalité qui n'est pas selon le royaume de Dieu. Il y a une mentalité qui règne depuis des années. Donc, si vous adoptez la mentalité religieuse, vous allez vivre comme les religieux. Vous pouvez avoir la mentalité du monde. Bon, les religieux seront en désaccord. Ils vont dire, non, non, il ne faut pas avoir la mentalité du monde. Et c'est vrai, on ne devrait pas penser comme le monde. Mais on peut aussi dire, bien, moi, je vais penser comme les religieux. Les religieux se réjouissent quand quelqu'un chute et se repent. On devrait se réjouir quand une personne se repent authentiquement. Mais dans ce cas-là, c'était même pas le cas. Donc, il peut avoir cette mentalité religieuse-là aussi. Mais Dieu nous appelle à ne pas suivre la foule, mais à le suivre. Donc, on devrait avoir plutôt la mentalité du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu veut? Dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa façon d'agir, en fait, et toutes ces autres choses vous seront données. » Quand on recherche la justice de Dieu, on cherche la façon que Dieu travaille. Et on a vu déjà dans la définition, une mentalité, c'est l'ensemble des manières d'agir. Donc, on doit changer notre mentalité pour avoir la mentalité de Dieu. Et les chrétiens, en fait, sont spirituellement dans le royaume de Dieu, donc dans leur position en Christ, mais dans leur mentalité, ils sont encore dans un autre royaume. Ils ont cru soit la pensée du monde, soit la pensée de la religion, soit la pensée de la famille. Bref, on a toutes sortes de pensées et de mentalités. Mais là, on doit se séparer de toutes ces mentalités-là et dire, je veux celle de Dieu, du royaume de Dieu, parce que Dieu est la seule source de vérité. Donc, des fois, on peut croire, bien, je suis correct parce que je pense comme mon frère et ma sœur de l'Église. Mais peut-être, eux, ils sont dans une tradition humaine. Donc, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est s'arrêter. Avant de vouloir changer notre mentalité, on doit examiner notre mentalité présente. Parlons maintenant de la vie chrétienne de plusieurs chrétiens. On va aller dans la parole de Dieu, dans Tite, chapitre 3, au verset 4. Venez avec moi dans Tite, chapitre 3 et au verset 4. Il est écrit, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » OK, donc premièrement, nous sommes sauvés. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du royaume spirituellement, vous êtes sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, on comprend, Dieu est notre source de salut. Amen. Verset 6, le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, déjà là, vous devez comprendre, quand vous êtes sauvés, vous devenez un héritier de la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est bon. Verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, remarquez bien ceci. Donc, on a dit les choses qu'on comprenait tous. Si nous sommes enfants de Dieu depuis un certain moment, on a compris, nous avons été sauvés, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est bien. Pratiquons de bonnes œuvres. Maintenant, au verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, ici on parle des doctrines, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, au verset 10, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, peu de chrétiens, en fait, aujourd'hui, expérimentent le royaume de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Car ils ferment leur cœur à la révélation de Dieu. Ils sont dans un monde à part, en fait. Oui, ils sont sauvés. Leur esprit est sauvé. S'ils meurent, ils vont au ciel. Gloire à Dieu pour ça. Mais en ce moment, ils vivent leur vie chrétienne en dehors du royaume de Dieu. Ils vivent, en fait, en discutant de toutes sortes de choses. Par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est là où vous allez voir la façon que les chrétiens pensent. Ils se réjouissent quand quelqu'un chute. C'est anormal. Si vous êtes un enfant de Dieu, on ne devrait pas se réjouir comme ça. Mais ça, c'est la mentalité qui règne dans le monde. Ce texte nous dit, évite les discussions folles. Si vous êtes une personne, vous aimez discuter sur des points de controverse. Les généalogies, je pense pas que c'est notre cas aujourd'hui. On va pas trop discuter les généalogies. Mais les querelles. Sur les réseaux sociaux, on le voit, des chrétiens, des enfants de Dieu vont se quereller. C'est absolument un non-sens. Les disputes relatives à la loi ou à la doctrine. Combien de fois on va lire des textes des chrétiens? Moi, je vais vous dire, je passe pas beaucoup de temps à faire ça, mais je peux juste voir des fois circuler certaines choses et je me dis, les chrétiens perdent leur temps. Ils gaspillent du temps. Frères et sœurs, si vous voulez grandir cette année et vivre une croissance exponentielle dans votre vie, vous devez avoir la mentalité du royaume. Mais pensez-vous que Jésus prendrait son temps à quereller, discuter, argumenter avec les gens, entrer dans des débats? Non, c'est une perte de temps. Vous devriez plutôt prendre votre temps, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, commencer à proclamer la parole de Dieu, faites suivre des bons enseignements, des bonnes émissions chrétiennes, partagez des bonnes choses édifiantes pour changer la mentalité des gens qui sont perdus aussi. Et oui, même les chrétiens, ils vont s'exposer à la parole de Dieu, ils vont entendre des messages encourageants, ils vont pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Donc ça, c'est hyper important. Donc, quand on voit des choses circuler sur Internet, on voit des commentaires négatifs, tout ça, on doit faire attention de ne pas se laisser contaminer par ces mentalités qui sont en dehors du plan de Dieu. Plusieurs chrétiens s'imaginent tout savoir sur la Bible, alors ils raisonnent tout intellectuellement. Ils ne s'attendent plus de recevoir de l'Esprit des révélations nouvelles. Plusieurs chrétiens évangéliques vivent dans une boîte théologique et intellectuelle érigé par la crainte. Par exemple, si on enseigne sur les finances dans le corps de Christ, il y a eu beaucoup, beaucoup de crainte à ce niveau-là. Pourtant, le Seigneur Jésus a enseigné sur les finances plus que toute autre chose. On regarde dans la parole, Jésus parle constamment. Vous lisez les paraboles, vous voyez que Jésus parle constamment des finances parce que la majorité des gens vont passer leur semaine en train de travailler pour avoir un salaire à la fin de la semaine, n'est-ce pas? Donc, les gens sont dans une vie... Ils sont à la recherche de l'argent. Et Dieu ne veut pas qu'on soit à la recherche de l'argent. Il veut qu'on soit à la recherche de lui. Amen. Donc, Jésus a parlé de ces choses-là. Il a dénoncé l'amour de l'argent, l'avarice. Il a dénoncé ces choses-là. Mais en même temps, il veut nous instruire dans toute la révélation de la parole de Dieu. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne s'exposent pas à l'enseignement concernant les finances, par exemple. Ils se disent, ah non, non, on n'a pas besoin de savoir ça. Le chrétien ne devrait pas étudier telle ou telle chose. Ou encore, à l'église, on ne devrait pas parler de ces choses-là. Parce que, par exemple, le monde des finances, ce n'est pas un monde spirituel. Mais c'est vraiment dommage quand tout cela est communiqué dans l'église, quand on dit ce n'est pas spirituel. Parce qu'en fait, tout est spirituel. On peut parler de tout selon le cœur de Dieu. Quand on arrive avec la perspective chrétienne, on peut libérer les captifs. Par exemple, un chrétien qui vit dans l'endettement. La Bible nous dit que celui qui vit dans l'endettement est esclave à celui qui lui a prêté de l'argent. Et dans Deutéronome 28, nous lisons en fait qu'on ne devrait pas être endetté. Et vraiment, donc la parole de Dieu nous enseigne les principes de l'économie du royaume. Si Dieu a pris la peine de nous enseigner ces choses-là, on devrait lire le texte, méditer et obéir au texte biblique, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose très importante. Mais là où on doit en revenir, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent tout savoir sur Dieu. Ah non, parce que moi, j'ai été enseigné comme ça dans mon église, je n'ai pas besoin d'apprendre d'autres choses. J'ai simplement besoin de poursuivre avec la connaissance que j'ai en ce moment. Mais écoutez une seconde. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment avec votre situation actuelle? J'ai des gens qui m'ont écrit, qui me disaient en privé, nous sommes sur le point de la faillite, les choses ne vont pas bien pour nous, vraiment, c'est terrible ce que nous vivons. Mais, bon, ça c'est en privé, mais j'ai vu ces mêmes personnes-là dénoncer des enseignements sur les finances qui pourraient les aider à s'en sortir. Donc, vous voyez, ces gens-là sont séduits par des traditions. D'un côté, on raconte notre vie, on dit, bien, je suis sur le bord de la faillite. Et là, il y a quelqu'un qui est là pour enseigner, pour amener un message de délivrance, et on rejette l'enseignement qui peut nous aider. Voyez-vous comment on a été séduit par le diable? Le diable vient voler les enfants de Dieu. Peut-être que vous êtes une personne comme ça. Peut-être que vous écoutez cette émission aujourd'hui, vous m'écoutez parler, vous entendez cet enseignement aujourd'hui. Et puis peut-être que vous êtes cette personne. Vous êtes dans l'opposition au message qui pourrait vous aider, vous libérer. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à croître dans votre mentalité. Laissez Dieu vous enseigner. Et un des points qu'on a déjà vu cette semaine, qui doit revenir encore aujourd'hui, nous devons être humbles et se laisser enseigner. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et Dieu peut nous enseigner, oui, par le biais d'une émission de télévision, oui, par des prédications, des livres chrétiens, des choses semblables. Amen. Donc, chose que je voulais aussi souligner, plusieurs sont théologiques, plusieurs chrétiens sont théologiques, mais pas spirituels. Vous avez dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses sur la Bible. Ils peuvent même écrire des commentaires bibliques sur des passages des Écritures. mais est-ce qu'ils sont connectés au Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont une bonne relation avec Dieu? Est-ce que leurs commentaires sortent de leur tête? Et est-ce que les commentaires qu'ils vont écrire ou même les choses qu'ils peuvent enseigner, est-ce que ces choses-là sortent de leur raisonnement tout simplement ou est-ce qu'ils ont été enseignés directement par le Saint-Esprit? Moi, je crois que c'est bien d'avoir une bonne théologie. Oui, des études bibliques. C'est très bien de se servir de notre tête. Dieu nous a donné une tête. Nous avons une intelligence. On devrait s'en servir. Amen. Mais si on arrête d'être spirituel, si on est totalement dans notre tête, on peut vraiment prendre un détour, on peut se tromper. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est dire, oui, Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné des choses, mais je demeure ouvert. Je demeure ouvert à continuer à grandir. Je veux continuer à croire dans tes voies, Seigneur. Et quand on est comme ça, on sort de cette boîte théologique qui est dépourvue de puissance. Plusieurs personnes sont dans la théologie à fond, déconnectées du monde spirituel. Imaginez quand vous passez du temps avec Dieu, vous priez tous les matins, l'Esprit de Dieu commence à vous révéler une vérité sur un passage des Écritures que vous connaissez déjà. Mais là, Dieu vous montre les profondeurs et vous révèle des choses. Vous dites, ah, wow, merci Seigneur, parce que tu me révèles ta vérité. Gloire à Dieu. Mais si je suis tellement comme contenté de la révélation présente, je n'ai aucun désir d'aller plus loin. Je suis juste content. Bon, voilà, mon association d'église dit ceci, mon église dit cela, mon pasteur a toujours dit ça, et puis c'est tout. Oui, on doit marcher dans l'honneur et l'amour envers toutes ces personnes-là. C'est bon et c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là et vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit, frères et sœurs. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps. Et si vous êtes toujours en train de juste gérer tout par votre cerveau au lieu d'être dirigé par votre esprit, je crois que vous manquez des grandes choses que Dieu en réserve pour vous. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent derrière des murs de crainte. Quand je vous parle des boîtes théologiques, on a défini notre expérience chrétienne comme derrière cette boîte-là. On est dans une boîte et puis on est derrière nos murs et puis voilà, je suis en sécurité derrière ces murs-là. Mais c'est des murs qui ont été érigés par la crainte. J'ai eu peur d'écouter des enseignements qui étaient différents de ce que j'ai toujours entendu parce que c'est différent. Est-ce qu'on devrait rejeter automatiquement tout ce qui est différent parce que c'est différent? Non, on devrait plutôt examiner l'enseignement à la lumière de la parole de Dieu et dire, est-ce que c'est biblique? Si c'est biblique, ah! Mais là, je veux grandir. Vous savez, vous ne pourrez pas grandir si vous ne changez pas vos croyances. Parce que si vous croyez ce que vous croyez aujourd'hui, et puis il n'y a aucune place à une croissance dans votre foi, bien vous allez toujours récolter ce que vous voyez en ce moment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous voulez croître dans votre mentalité et vous voulez voir une croissance en général dans toute votre vie chrétienne, une croissance dans votre couple, dans votre famille, dans votre ministère, votre église, votre commerce, vos affaires. Vous voulez voir une croissance cette année, une croissance exponentielle. Bien, si vous croyez juste ce que vous avez aujourd'hui, c'est tout, là. Vous n'aurez jamais aucune autre révélation, mais vous allez continuer à faire toujours les mêmes choses et vous allez produire les mêmes choses. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Mais si vous dites, oui, je crois ce que je crois aujourd'hui, mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit va me révéler encore plus de profondeur. Il va m'instruire d'une façon très précise pour voir une croissance dans mon couple, dans mes affaires et bref, toutes ces choses que j'ai mentionnées. Donc, Dieu révèle ses lois spirituelles à ses enfants qui sont ouverts et qui veulent les recevoir. Dieu ne révèle pas ses lois spirituelles à ceux qui s'imaginent déjà tout savoir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à grandir aujourd'hui? Découvrons maintenant la bénédiction d'être une créature spirituelle. On a déjà mentionné qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont uniquement théologiques, mais là, Dieu nous appelle aussi à devenir spirituel parce que vous êtes un esprit, premièrement. Remarquez bien ce texte dans Matthieu 13, au verset 9. Ici, c'est vraiment, vraiment spécial quand Jésus enseignait. Matthieu 13, au verset 9. Comme on a dit, Jésus est notre modèle par excellence quand on parle de croissance. Il est notre modèle en toutes choses. Et remarquez bien dans Matthieu 13, verset 9, ce que nous lisons concernant l'enseignement du Seigneur Jésus. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'était l'habitude du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il enseignait toujours par des paraboles. Et là, les disciples ont posé la question qui fait du sens. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais pourquoi le Seigneur Jésus, tu leur parles toujours en parabole? Verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Remarquez, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, ce texte-là nous dit en fait que Jésus ne voulait pas jeter ses perles au pourceau. Non, Jésus ne voulait pas faire ça. Il nous a dit de ne pas jeter nos perles au pourceau. En fait, dans Matthieu 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. OK? Donc, le Seigneur Jésus suivait ses propres enseignements. Donc, il prêcha en parabole pour susciter l'intérêt et les personnes qui étaient vraiment intéressées iraient à la recherche. Au verset 12, « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Je l'ai déjà enseigné dans la dernière session et je reprends maintenant le texte. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » Vous avez reçu une révélation de Dieu, Dieu va vous en donner d'autres. « Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » OK? Donc, c'est comme les personnes qui m'écrivent en privé dénonçant publiquement des choses, mais en privé, ils ont besoin des choses qu'ils dénoncent. Ça fait aucun sens. Verset 13, « C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez pas. » Au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes insensibles? Est-ce que vous êtes ouverts à recevoir de Dieu des enseignements? Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Wow! Vous voyez, Jésus était tellement intelligent, il ne jetait pas ses perles au pourceau, mais il voulait parler aux personnes intéressées, à ceux à qui était donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses mystérieuses qui n'ont pas encore été révélées. Et moi, je me positionne vraiment comme un étudiant au pied du maître et je dis, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi les choses qui me concernent personnellement dans ma vie. Il y a tellement de choses, de révélations glorieuses dans la parole de Dieu. Je ne prétends pas tout savoir. Moi, je vais passer toute ma vie à étudier cette lettre d'amour, et Dieu va continuer à me révéler des choses. Mais si j'imagine, oh non, je connais déjà tout, et puis là, je vois sur Internet un enseignement que je ne connais pas, par exemple, et là, je dis, oh non, c'est impossible parce que moi, je connais pas cet enseignement-là, c'est forcément une erreur, c'est une nouvelle doctrine, c'est quelque chose de faux. Tellement de chrétiens sont comme ça, ils sont intellectuels, théologiques, mais totalement pas spirituels. Nous sommes des esprits, on habite un corps, oui, gloire à Dieu, mais Dieu nous donne de recevoir des enseignements pour grandir. Parce que sinon, on va rester là où nous sommes. Et malheureusement, on ne peut pas se réjouir et dire, voilà, le réveil mondial est éclaté et puis on n'a rien à faire. On devrait continuer à grandir et apprendre. Amen. Donc, la mentalité du royaume, une chose très importante que l'Esprit de Dieu veut vous révéler aujourd'hui, c'est que la mentalité du royaume est une mentalité d'abondance à tous les niveaux. Quand vous commencez à recevoir des révélations de Dieu, vous verrez que Dieu commence à vraiment déverser en vous des révélations et vous grandissez et il n'y a aucune limite. Dieu ne limitera pas les révélations comme dire, oh non, toi, t'as juste ça, c'est tout ce que je vais te donner dans ta vie. Donc, dès que vous recevez, vous commencez à recevoir des choses, vous verrez que Dieu va continuer à vous révéler et vous révéler et vous révéler. Et vous verrez aussi que au ciel, il n'y a pas de manque. Au ciel, c'est vraiment la grande générosité de Dieu qui règne partout, l'abondance, cette mentalité de grandeur, si on veut. Et c'est pour ça que quand nous marchons sur la terre avec la mentalité des hommes, on s'imagine, par exemple, si je prends un morceau de tarte, OK, on se prend un morceau de tarte, mais j'imagine si moi je prends un morceau, si mon ami prend un morceau de tarte, bien, il va me rester moins de morceaux pour moi. Et on pense comme ça. Si quelqu'un prend, il m'en reste moins. Mais c'est encore le contraire du royaume de Dieu. La mentalité du royaume nous dit, donnez, vous recevrez. Mais ça ne fait aucun sens dans les termes humains. Je vais donner et je vais recevoir ou je vais être encore plus abondant à ce niveau-là après avoir donné. Non, si j'ai donné, il m'en manque. Je vais avoir moins. Ça, c'est la mentalité humaine. Mais avec Dieu, non, donnez et vous recevrez. Amen. Vous aurez encore plus. C'est ça, la mentalité du royaume est vraiment à l'inverse de la mentalité de Dieu. Et là, j'aimerais ça vous illustrer un peu le royaume de Dieu, comment ça fonctionne. Ici au Canada, si je prends ma tasse et puis j'ouvre le robinet, OK, et puis je veux me servir de l'eau, je vais refermer après, Et si je veux avoir d'autres eaux, je vais encore prendre ma tasse et puis je vais ouvrir mon robinet et je peux encore avoir de l'eau. Il n'y a aucune pensée ou aucune crainte en moi qu'il n'y aura plus d'eau plus tard. Mais non, je vais ouvrir et je vais fermer. Et dans le royaume de Dieu, il y a toujours, toujours une abondance de provision dans tout. Dans la sagesse, la révélation de Dieu, la provision, la santé, tout ce que j'ai de besoin en Dieu, il y a toujours en masse. Il y en a toujours en surplus. Si je pense limitation, je n'ai pas la mentalité du royaume. Je pense comme Judas, par exemple. Vous savez, quand Marie est venue voir Jésus, elle a déversé ce parfum qui valait environ un an de salaire. Tout de suite, la mentalité de Judas, c'était comme, non, faut pas déverser ce parfum-là sur ses pieds, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles. Imaginez, c'est la mentalité de plusieurs chrétiens. C'est du gaspillage. On aurait pu prendre ce parfum et vendre ce parfum et avec le profit donné aux pauvres. Ça, c'était le discours de Judas. Judas, qui est un voleur, qui allait toujours piger dans la trésorerie. Vous connaissez l'histoire. La mentalité des hommes, c'est une mentalité de limitation, petitesse. Ah non, si je donne, je vais avoir moins. Ou si quelqu'un prend quelque chose, il en reste moins pour moi. Ça, c'est une mentalité qui est contraire au royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est comme une rivière. Si je saute dans la rivière, il y a assez d'eau pour tout le monde. Vous pouvez venir avec moi. Il n'y a pas de souci. Si je suis dans l'abondance, dans la guérison, il y en a assez pour tous. Amen. Donc, il n'y a pas de pénurie dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Donc, ce que je dois faire, c'est être renouvelé et croire, comme il est écrit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Tout simplement, je dois croire, tout est possible. Ma mentalité doit changer et dans le nom de Jésus, je choisis de croire que tout est possible, que Dieu veut faire au-delà de tout ce que je peux imaginer ou même penser. Gloire à Dieu, tout est possible pour mon Dieu parce qu'il est grand et tout puissant. Et je veux enlever toutes les pensées qui me limitent, tout ce qui est là pour me dire, ah non, c'est impossible, pour toi c'est impossible. Plusieurs chrétiens dénoncent le message qui pourrait les aider. Plusieurs chrétiens se limitent avec leur raisonnement humain ou se limitent avec leur théologie ou leur compréhension théologique aujourd'hui. Pourtant, notre Dieu est tellement plus grand que notre cerveau. Si on prend la grandeur de Dieu et on le diminue, ok, notre Dieu, on doit le diminuer pour qu'il rentre dans notre cerveau, pour qu'on comprenne, ce n'est plus le Dieu de la Bible. Mon Dieu est infiniment grand, infiniment puissant et il veut faire du bien à ses enfants. En fait, c'est ça la mentalité du royaume, c'est qu'il n'y a pas de limitation avec notre Dieu, pour notre Dieu. Ne limitez plus Dieu. Croyez que Dieu est capable de tout faire. Amen. Et accueillez vraiment cet esprit de générosité, cet esprit de libéralité. Et ici, je parle à tous les niveaux. Dans votre amour, semez de l'amour, semez du temps, semez de compassion, semez selon le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.